RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est une victime directe du dérèglement climatique. En France, la viticulture subit de plein fouet les sécheresses, les pluies diluviennes ou encore la grêle qui peuvent anéantir l'effort de toute une année. Pourtant, les enjeux socio-économiques sont énormes. Les exportations de vin rapportent à la France près de 8 milliards d'euros. Mais les vignerons ne sont pas dupes. Leur unique outil de travail, la vigne, est menacé. Alors, ils s'adaptent. Le changement climatique, la viticulture sera durable ou ne sera pas. Grand reportage, signé Agnieszka Kumor.
Ça, c'est le vieux pont de Cascastel qui a été emporté et qui a été reconstruit suite aux inondations de 1999. Il le rappelle le vieux pont, du coup. Mais voilà, il est parti avec les inondations.
Cascastel des Corbières, dans le sud-est de la France, en plein pays Qatar. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1999, des pluies torrentielles s'abattent sur ce village de 230 habitants. À l'époque, Catherine Busquet venait de commencer ses études d'œnologie.
Jusqu'où c'est monté? Je pense, là, cette maison, ils sont venus chercher un hélicoptère, je sais. Tous les rez-de-chaussée étaient inondés, c'est pas rentré dans les premiers étages. Mais je sais qu'ils voyaient les voitures taper dans les murs contre le rez-de-chaussée. Je ne sais pas s'ils en ont trouvé dans les maisons, mais en tout cas dans la mer, ils en ont trouvé. Voilà, ça a tout emporté. Ouais.
Donc ce monstre, il est où?
Il est là. Donc effectivement, il n'y a rien. Peu d'eau. Là où il y a du courant, il doit y avoir 5 cm. Et voilà, là, je ne sais pas, au plus profond, il doit y avoir tout juste un mètre, je pense. Mais dans la vieille cave de Cascastel, parce qu'on a deux parties, donc on a une partie qui a été reconstruite après 99. Dans la partie ancienne cave qu'on appelle, oh, il y avait... au moins entre 3 et 4 mètres d'eau. C'était apocalyptique. Hein.
Aujourd'hui, Catherine Busquet est technicienne vignoble chez les maîtres vignerons de Cascastel, la coopérative détruite lors de cette crue meurtrière. Marc Guinebeau, directeur adjoint, se souvient.
Toute la grande région, ça allait de Lézignan-Corbières et toutes les Corbières, quasiment en une nuit, on a eu plus de 6 mois d'eau. Donc ils sont tombés très vite. On est sur des sols, comme vous voyez, très caillouteux. Les sols n'ont pas absorbé, ça a créé des torrents. Donc la petite rivière qu'on a en face de nous, en fait, qui est un ruisseau quasiment à sec aujourd'hui, s'est transformée en fleuve et en torrent, entraînant tout sur son passage par vagues successives. Et donc on a eu quasiment à 3 mètres d'eau dans l'ancienne cave qui était construite en bord de rivière, qui a été construite en 1914 et qui n'avait jamais connu d'eau avant. En décembre 1999, encore sous le choc, les vignerons se sont réunis et ont décidé de reconstruire avant les vendanges 2000. Donc en 6 mois, on a fait sortir là où on est une cave de terre pour vinifier la récolte 2000.
Depuis, tous les bâtiments de la cave ont été équipés de panneaux photovoltaïques.
100% de l'électricité qu'on consomme est de l'électricité durable produite sur le site.
Dans le cuvier où arrivent des raisins récoltés, une machine attire notre attention.
Si on se tourne, donc on a notre fameux filtre tangentiel, donc il n'est pas très gros. C'est une machine en fait où il y a une pompe, où on a 3 cartouches de filtration. Le vin va passer dans ces cartouches, les unes après les autres, qui vont retenir les parties solides, et puis après donc, il repart en cuve. Par rapport aux autres systèmes de filtration, elle est très très économe en eau. Les autres systèmes sont des systèmes, on va dire, à terre, qui consomment beaucoup d'eau dans le cycle de filtration. Alors ça ne veut pas dire qu'on mélange l'eau au vin, hein, loin de là, mais il leur faut de l'eau pour fonctionner et aussi pour les nettoyer. La cave est la continuité de l'exploitation de nos vignerons, donc on se doit en interne, dans nos métiers à nous, d'avoir le moins d'impact possible sur notre environnement.
Les économies d'eau sont au centre des préoccupations. La seule source qui approvisionne le village est régulièrement à sec. L'eau est devenue une ressource rare. Cap sur le vignoble composé de petites parcelles pentues brûlées par le soleil où tout se fait à la main. Catherine Busquet, technicienne vignoble.
Alors, bon, c'est vrai que sur 15 ans, il y a un changement. Bon, il n'est pas radical d'une année à l'autre. Donc, comme c'est insidieux, c'est quand même quelque chose qu'on voit petit à petit. Les dates de vendange qui s'avancent. Ce qui est flagrant, c'est les pertes de rendement. Voilà, il y a moins d'eau, les baies grossissent moins. Et donc, effectivement, on peut dire qu'on a perdu 10 ou 15% en rendement sur les exploitations. Et donc, effectivement, voilà, un impact sur les revenus directs des vignerons.
Depuis 2003, les maîtres vignerons de Cascastel utilisent des méthodes de culture raisonnées qui consistent à diminuer, voire à supprimer, les traitements phytosanitaires, à ne les effectuer qu'en cas de besoin et avec des doses minimales. On plante également de l'herbe pour enrayer l'érosion des sols. Et pour préserver la biodiversité, le cahier des charges est encore plus exigeant.
On a créé la démarche REV, qui veut dire démarche respectueuse de l'être humain, du vignoble et de l'environnement. C'est tout ce qui est protection vis-à-vis des phytos de nos adhérents, et puis traçabilité, tout ça, voilà, par respect pour le consommateur. On a une charte vignoble qui décrit tous les travaux de la vigne que nous faisons, et voilà, et on donne une ligne de conduite pour que les adhérents sachent ce qu'on attend d'eux.
Maîtriser les impacts économiques, sociaux et environnementaux, c'est l'objectif de Xavier Gomard, directeur de la cave de Thym. Pour le retrouver, nous partons dans le nord de la vallée du Rhône. Il nous attend en haut de la colline de l'Ermitage.
Alors là, vous êtes déjà à 350 mètres et vous voyez au pied de vous toute la plaine de Valence, la ville de Thym-l'Ermitage, rive gauche, et en face, Tournon, rive droite. Vous avez le Rhône juste en face de nous. Et un peu sur la gauche, vous avez l'Isère qui arrive et qui se jette dans le Rhône, là, au milieu de la plaine. La vigne ne va pas jusqu'au pied du Vercors, s'arrête à hauteur de ces petites collines. On est obligé de mettre cette vigne sur des échalas, c'est des grands piquets, sur lesquels on va accrocher la vigne qui va escalader ces piquets. On ne peut guère faire autrement, c'est tellement pentu. Il y a des terrasses, vous voyez, où on voit très bien d'ici, il y a 4 pieds de vigne en largeur, donc ça fait 3 mètres. Dans des pentes comme ça, on est obligé de tout biner à la main, ou de travailler avec des treuils, c'est-à-dire une personne en haut, un gars qui descend sa charrue avec un treuil, et on remonte comme cela.
Si les vignerons adaptent leurs pratiques pour rendre la vigne plus résistante, ils commencent à s'interroger sur les conséquences du réchauffement climatique. Daniel Brisseau, responsable vignoble à la cave de Thym.
On est sur une année très ensoleillée au niveau des mois de juin, juillet, d'août, de septembre. Ce qui est bien pour le vigneron parce qu'on a fait une superbe récolte, mais la sécheresse s'est progressivement installée et contrairement aux autres années, elle continue. Septembre, octobre, novembre, chez nous, c'est des mois où on a à peu près en moyenne une centaine de millimètres d'eau par mois.
Et les problèmes ne font que commencer.
Si les vendanges sont plus précoces, elles vont se rapprocher du mois d'août, à une période où il fait beaucoup plus chaud, ce qui peut changer les caractéristiques du raisin et la typicité de nos vins. On va avoir souvent un peu plus de sucre, donc un peu plus d'alcool dans les vins. Pour faire un grand vin rouge, il faut que les baies soient sucrées, mais il faut surtout que la peau des raisins soit mûre, puisque c'est dans la peau qu'on va trouver la couleur et les tanins des grands vins rouges. Et on a de plus en plus une déconnexion entre la maturité qu'on appelle nous technologique, en clair la richesse en sucre, et la maturité phénologique et la maturité des peaux. Si le climat continue à bouger dans ce sens-là, peut-être que dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, les problèmes seront plus pointus, plus graves, quoi.
Dans cette région, une variété de raisin s'est imposée, la Syrah.
La Syrah, c'est pas un individu, c'est des centaines d'individus qui sont proches les uns des autres, mais un petit peu différents. Au fil du temps, les vignerons ont sélectionné dans ses pieds ceux qui les intéressaient le plus. Et souvent, c'était ceux qui mûrissaient relativement tôt, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, des fois, on finissait les vendanges au 15 octobre. Et si les raisins mûrissaient au mois de septembre, c'était quand même mieux. On a, pendant longtemps, sélectionné les pieds les plus précoces. Donc on a commencé à se dire qu'il allait falloir peut-être chercher des individus qui soient capables de mûrir un petit peu plus tard, pour s'adapter déjà dans un premier temps au climat.
Mais que faire si les températures continuent de grimper? Délocaliser les vignes vers le nord ou vers le sud, selon l'hémisphère? Yves Leers, co-auteur du livre « Menaces sur le vin, les défis du changement climatique ».
On perd en gros un degré tous les 200 mètres d'altitude, un degré d'alcool dans le vin, je veux dire. Mais c'est pas possible partout. Et en plus, ça demande des moyens financiers qui sont énormes. Donc, dans la mesure du possible, avec des nouveaux cépages, à ce moment-là, au bout de 4 ans, 5 ans, ils vont regarder quels sont ceux qui vont donner la meilleure qualité avec un réchauffement plus important. Il y a des solutions et je pense qu'il faut tout tester. La limite, en gros, c'est 3 degrés de chaleur de plus, 3 degrés et demi. On est bien en peine d'arriver à cultiver dans les mêmes conditions.
Ces variétés de raisins nouvelles sont parfois des cépages oubliés que certains remettent au goût du jour. C'est notamment le cas de Plément Producteur à Saint-Mont, une coopérative du sud-ouest français qui a lancé dès les années 70 des repérages dans sa région. Des empélographes, ce sont des spécialistes de la vigne, ont parcouru le vignoble à la recherche des variétés inconnues. À commencer par une très vieille parcelle, classée monument historique, qui se trouve à Saragachi, dans le Gers. C'est Nadine Raymond, coordinatrice technique recherche et développement chez Plément Producteur, qui nous y emmène.
Bon, alors on arrive un peu dans la brume des matins d'automne gersois. Donc on est sur une parcelle qui fait 20 ars, donc une petite parcelle, mais qui aurait été plantée début du 19e siècle. Quand vous venez là en plein hiver, qu'il n'y a pas une feuille, vous avez l'impression d'être sur une parcelle complètement crevée. Alors que pas du tout, ses pieds sont tout à fait vivants.
Et ses pieds sont préphylloxériques. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Voilà. Préphylloxériques, un grand mot pour dire que ses pieds ont été plantés avant l'arrivée du phylloxéra. Le phylloxéra, un petit insecte qui nous vient d'Amérique, détecté dans les années 1860 dans le sud-est de la France. Ce petit insecte, en Amérique, il faisait pas du tout de mal. Par contre, quand il est arrivé sur le territoire européen, là, il a fait beaucoup, beaucoup de mal. Quasiment tout le vignoble européen a été décimé à cette période-là. Il y a quelques parcelles qui ont survécu, mais très peu. Ici, on est sur un terrain assez particulier. Ce sont des sables. Pourquoi cet insecte fait du mal à la vigne ? Il vient piquer les racines. Sauf que quand il creuse dans le sable, la galerie s'effondre. Donc, il n'arrive pas à aller jusqu'aux racines. C'est pour ça que ses pieds ont résisté.
Le puceron ravageur a provoqué un désastre économique et social que certains comparent au futur bouleversement climatique. Contre le phylloxéra, présent désormais dans le monde entier, pas d'autre remède que de greffer les vignes européennes sur les porte-greffes américains. Quant aux souches prélevées dans le vignoble gersois, elles ont servi à la création d'un conservatoire. André Dubos, ancien directeur de Plément Producteur.
Ce n'était pas le changement climatique qui nous préoccupait à l'époque, je l'avoue, mais c'était la raréfaction, l'appauvrissement de notre biodiversité. On était en train d'effacer la plupart des cépages qui avaient fait notre gloire, de simplifier à ne produire que le même raisin dans la même parcelle, d'une seule variété et d'un seul plan, multiplié à l'infini. C'est affreux parce que nous perdions toute la génétique de notre histoire.
Ce projet patrimonial et économique est devenu aussi environnemental. Le conservatoire de Saint-Mont a été créé en 2002. Il rassemble 37 variétés de vignes, dont 12 cépages inconnus, et une vigne sauvage, une lambrusque. Un nouveau cépage vient d'être inscrit dans le catalogue officiel français des espèces et variétés, le Tardif, qui porte bien son nom.
Celui-ci, il n'était pas du tout adapté il y a 100 ans, parce qu'il mûrit tard. Donc il y a 100 ans, mûrir tard, ça voulait dire s'il mûrissait, allez, mi-novembre, il y avait eu de la pluie, il y avait eu du froid, il y avait eu de tout, donc autant dire les baies n'étaient pas mûres ou les baies étaient abîmées. Aujourd'hui, on arrive à le faire mûrir avec un peu d'évolution climatique, quelques soins, on arrive à le faire mûrir sur des périodes tout à fait cohérentes pour nous, cépage tardif, donc qui gardera de la fraîcheur, et sur une aromatique épicée, qui est quand même assez unique parmi la palette de cépages qu'on a actuellement.
Pour Olivier Bourdépesse, directeur général de Plément Producteur, l'intérêt de ce projet n'est pas anecdotique.
Notre vraie réalité aujourd'hui, c'est quand même une volonté de faire vivre ce territoire. Qu'il y ait des vignerons qui s'installent, des jeunes vignerons qui succèdent à leurs parents et qui succèdent durablement. C'est vrai que cette obligation de réussir économiquement ce projet, elle est bien là. Aujourd'hui, le marché, il demande partout dans le monde un certain nombre de cépages, partout les mêmes, qui font la grande partie de la viticulture mondiale. Ce sont les merlots, les chardonnays, les sauvignons. Mais la réalité, c'est qu'il existe aujourd'hui un cours mondial de ces cépages-là. Et ce cours mondial, avec notre petites exploitations, sur nos coteaux, sur des conditions climatiques qui sont très très particulières, mais on est convaincu qu'avec ces cépages-là, on ne va pas faire vivre cette région. Donc ces cépages originaux, ce sont bel et bien des outils qui vont faire développer une viticulture ambitieuse et rentable économiquement. Alors bien sûr, nous nous adressons à un marché de niche, à un marché de gens qui vont vouloir découvrir autre chose, sortir un petit peu des sentiers battus.
Certains vignerons vont encore plus loin et sortent des appellations pour créer des vins de France, dont certains égalent les grands crus. Yves Lers, spécialiste du changement climatique.
Pour moi, le système des appellations, il est appelé à éclater s'il n'évolue pas. Je pense qu'il faut le garder parce que c'est un système extrêmement précieux. C'est ce qui a garanti la qualité des vins français et en Italie parce qu'ils sont inspirés de notre législation. Maintenant, s'il n'évolue pas, il explose. Ce que vous disiez tout à l'heure avec les viticulteurs qui maintenant plantent et sortent de l'appellation pour pouvoir tester des nouveaux cépages, et bien elles font bouger les choses.
D'autres restent dans le système pour le renouveler de l'intérieur. C'est dans le Bordelais, dans le sud-ouest de la France, que Jean-Baptiste Soula dirige le groupe Bordeaux Vinéam. Les 6 châteaux de ce groupe sino-canadien bénéficient d'une double certification environnementale. Avec ses 260 hectares de vignes, le groupe est devenu le leader du bio dans cette région qui cherche depuis peu à sortir du tout pesticide. La viticulture biologique interdit des produits phytosanitaires. La vie microbienne des sols est préservée. Pour combattre les maladies, le soufre ou le sulfate du cuivre sont autorisés. Selon Jean-Baptiste Soula, il s'agit de favoriser le retour des alliés naturels de la vigne.
Alors ces alliés, il y en a plein. Par exemple, les chauves-souris. On se plaint très régulièrement, on dit depuis quelques années, oh là là, on n'a jamais eu autant de vers de la grappe que ces dernières années à Bordeaux. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On va traiter contre le vers de la grappe. D'accord? Donc voilà, on va balancer des produits dessus. Au lieu de se dire, mais pourquoi est-ce que ces vers de la grappe sont là? Eh bien en fait, on s'est rendu compte que l'allié naturel de la vigne, dans ce cas-là, c'est la chauve-souris. Parce qu'elle adore ce genre d'insectes. Mais alors comment est-ce que ça se fait que la chauve-souris ne vienne plus dans nos vignes? Elles y étaient tout le temps avant. En fait, les chauves-souris, comme tout le monde le sait, elles sont aveugles, elles se déplacent, elles émettent des ultrasons qui lui reviennent. Mais il faut que ces ultrasons viennent toucher des plans verticaux. Et dans nos vignes, aujourd'hui, elles sont toutes uniformes, il n'y a pas d'arbres qui débordent, ce sont des océans de vignes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va planter des haies, ou des postes, ou des nichoirs qui vont permettre à la chauve-souris de se repérer. À partir du moment où elle peut se repérer, elle va venir chez nous. Donc, les chauves-souris chez nous sont les bienvenues. Et ça nous évite d'avoir des traitements à faire.
Mais le passage au bio a un coût. Il alourdit les frais d'exploitation de 15 à 20% pour une production moindre. Pourtant, c'est bien l'aspect environnemental qui façonnera la viticulture de demain.
Le passage en bio, c'est la clé pour la sortie par le haut des AOC. Avec 5000 pieds par hectare, ça fait très peu de rendement. Donc, très peu d'entassement des raisins par pied de vigne, et donc vous n'avez pas besoin de produits curatifs pour aller vous battre contre la pourriture. C'est la prophylaxie. Ça fait 16 ans qu'on fait du bio, ça fait 16 ans, et on continue, on se remet en question systématiquement.
Nous sommes en Champagne, dans le nord-est de la France. Michel Drapier représente la 7e génération de vignerons d'Urville. En 2016, le champagne Drapier est certifié neutre en émissions carbone. Une première en Champagne. Selon Michel Drapier, durable rime avec éco-responsable.
Tous nos toits ont été aménagés en panneaux solaires. 60% de cette énergie solaire, elle est produite sur place, de façon gratuite. Et dans la mesure où cette électricité vient du soleil, nous avons une chaîne vertueuse de l'utilisation de l'énergie. Il y a aussi des biocarburants pour nos tracteurs, ça on est obligé de les acheter. Et nous avons réussi en Champagne, d'une façon générale, à alléger le poids de la bouteille, puisqu'on est passé de presque 1 kg, et aujourd'hui nous sommes à 830 grammes. Donc c'est quand même quelque chose de très important.
Certes, les Champenois ne sont pas mécontents du réchauffement climatique qui a apporté plus de soleil à leurs vignes. Mais les aléas météo font baisser leurs récoltes. Alors, ils s'adaptent.
Les événements sont plus extrêmes. Nous avons des grêles qui sont très fortes. Et alors que la température moyenne au vignoble augmente, curieusement, nous avons du gel parce qu'il suffit de quelques heures pour que la récolte soit détruite. Ça, c'est au mois d'avril, même au mois de mai. C'est déjà arrivé. Il faut simplement bien se souvenir de ce qui s'est passé autrefois. Nos rendements sont inférieurs maintenant, oui, parce que nous ne mettons plus les engrais chimiques. Nous protégeons moins la vigne, donc il y a un petit peu de maladie, mais qui est juste là pour montrer que la vigne vit naturellement et qu'elle se défend elle-même. La production baisse de 20%, 25%. Mais ça, on peut s'habituer. Il suffit de stocker plus de vin, d'avoir peut-être plus de surface. Nous avons encore de l'espace. Quand vous regardez toutes ces faces qui sont au nord, à l'est ou à l'ouest, qui ont des terrains pauvres, calcaires, très appropriés pour la vigne, pourquoi ne pas les planter? La Champagne a cette capacité de choisir, comme des panneaux solaires finalement, dans nos vignes, pour s'exposer aux rayons idéaux.
Le développement durable, c'est une multitude de petites actions qu'on peut faire et pas forcément une action qui va tout révolutionner, parce que ça serait trop simple. D'ailleurs, il n'y en a pas. Hein. C'est l'histoire du colibri qui, dans un incendie de forêt, charrie une goutte d'eau et qui la dépose sur l'incendie et tous les autres animaux lui disent que mais il n'y arrivera jamais. Et lui, il dit mais moi, je fais ma part.
Le changement climatique, la viticulture sera durable ou ne sera pas. Un grand reportage d'Agnieszka Kumor, réalisation Pierre Chaffanjon.